Dauphiné. L'invité.
Depuis près de 10 ans, des chrétiens se mobilisent à Lyon pour témoigner aux femmes en situation de prostitution. Ils ont créé l'association Alliance de l'Espérance en 2012 pour lutter contre la traite sexuelle des êtres humains. D'après l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, au moins 20 000 personnes se prostituent en France. Mais ce chiffre est très vague, difficile d'avoir plus de précision. Rencontre aujourd'hui avec Amandine Jourson, présidente de l'association, et Mickaël Digena, membre honoraire de l'association. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment est née l'Alliance de l'Espérance ?
On est arrivé sur Lyon, c'était 2005. On a eu une vocation ici missionnaire. On est là depuis 20 ans à peu près. On a vu qu'il y avait une prostitution flagrante, surtout en fait au niveau de la gare de Parache. Notre équipe avait à cœur vraiment de prier pour la ville. Et on était frappés par cette présence. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ? Est-ce qu'on pourrait témoigner de la foi auprès de ces personnes-là ? Donc on a commencé à vraiment prier. Dès 2007, il y avait en fait quelques personnes qui se sont manifestées avec un désir de prier davantage quant à ce problème. En 2008, il y avait une conférence tenue par un collègue qui est venu de l'étranger, qui parlait justement de la traite des êtres humains et de la possibilité d'exercer un ministère auprès de ces personnes. Il y a en fait toutes sortes de personnes qui sont venues du monde entier pour parler, pour exposer et le problème et les façons d'agir. Et donc à partir de cette conférence, il y avait un noyau de personnes qui étaient présentes. On s'est mis d'accord pour se voir régulièrement, prier et concevoir même un projet afin d'avoir un impact sur ces personnes-là. Et c'était à peu près en 2009 qu'on a pensé même se déclarer en tant qu'association. Et au fur et à mesure, en fait, au départ, il y avait pas mal de personnes comme moi qui étaient de vocation missionnaire et on voulait en fait suivre Dieu et voir comment il allait réagir par rapport à ce fardeau qu'il nous a donné. Et au fur et à mesure, en fait, des rencontres de ce noyau, il y avait des personnes qui se sont manifestées. Il y avait des chrétiens, chrétiennes, en fait, des églises évangéliques à Lyon, qui étaient sensibles au problème et qui avaient à cœur aussi le fardeau de répondre en quelque sorte avec un ministère dont ils ignoraient en fait la conception. On passait du temps presque chaque semaine en s'inspirant en fait des expériences des uns des autres. Et notamment, il y avait une association qui a été montée à Nantes. On l'a pris contact lui. Et il est venu gentiment pour nous exposer ce qui se passait à Nantes. À partir de ces rencontres-là, on a su concevoir davantage la manière dont de procéder. Donc c'était, je dirais, vers 2010 qu'on avait vraiment, pas seulement un noyau, mais des personnes qui avaient plus de compétences, un désir vraiment d'avoir un impact positif. On a décidé de constituer une association. Et il y avait des personnes qui se sont adhérées à la vision. On a pu vraiment avancer.
Alors moi, je suis arrivée dans l'association en 2013. Lorsque je suis arrivée dans cette association, on était vraiment aux prémices, c'est-à-dire de comprendre un petit peu comment fonctionnait la prostitution, où trouver les femmes et les hommes, comment les interpeller, puisque c'est quand même particulier d'aller évangéliser des personnes qui sont quasiment nues. Comment se préparer à aller à leur rencontre ? Il y avait tout un tas de questions. J'ai pu quand même voir l'évolution jusqu'à aujourd'hui sur la manière d'intervenir, la connaissance maintenant que nous avons du public.
On rappelle que le rôle, la vision, en quelques mots vraiment de l'Alliance de l'Espérance, c'est de l'évangélisation.
L'objet qu'on a eu dès le départ, c'était vraiment de témoigner de l'évangile du Christ à toutes les personnes qui sont dans la prostitution ou sont des victimes du trafic des êtres humains, sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe, vraiment de religion. On voulait avoir cet impact-là sur cette population-là. On s'est posé la question sur la manière. Et le conseil qui a été donné, c'était d'aller en fait sur le terrain, se présenter à ces personnes qui sont prostituées, leur poser des questions, se présenter étant des chrétiens qui avaient à cœur vraiment de porter une aide auprès de telles personnes, et de se renseigner du contexte qui était réel pour ces femmes-là, afin de mieux cerner et discerner les possibilités d'action. On était un peu craintifs parce qu'on n'a jamais fait ça, et on ne savait pas s'il y avait des réseaux, des possibilités de se faire en quelque sorte pris dans un piège. Mais à partir de ces contacts-là, on a compris qu'il faut des choses simples. Et la chose la plus simple, en fait, c'est de proclamer l'évangile Et à partir de cette proclamation et cette installation de confiance, parce que ça se joue au niveau de la relation, d'avancer avec les personnes selon leur contexte, les réalités auxquelles elles sont confrontées, et de trouver, discerner les moyens d'aider, d'agir.
Aujourd'hui, finalement, où est-ce que vous intervenez et comment vous êtes reçu aujourd'hui ?
L'expérience fait que maintenant nous sommes connus sur le terrain. Donc nous intervenons principalement dans le quartier de Gerland, l'Artillerie. Depuis peu, nous avons aussi des connexions sur le péage de Roussillon, sur Saint-Étienne. Donc c'est vrai que cette vision du départ qu'ont eu donc ces missionnaires, aujourd'hui c'est vraiment étendue en restant toujours la même, puisque nous avons repéré des besoins, donc des sites de prostitution bien en dehors de la ville de Lyon. J'ai oublié aussi le quartier de Perrache, qui a beaucoup changé ces dernières années avec la reconstruction du quartier de Confluence, et ce qui a eu aussi un impact sur les réseaux de prostitution. Et du coup, lorsque nous arrivons, souvent, il y a une interrogation. Qu'est-ce qui se passe ? Un groupe de personnes qui vient, nous sortons uniquement en soirée. Et c'est vrai que la première chose est vraiment de se présenter. Il faut savoir que ces personnes sont vraiment très méfiantes. Elles renvoient souvent l'image de très ouvertes, très à l'aise avec un peu n'importe qui. Pas du tout. Elles sont très très méfiantes. Et du coup, le simple fait voilà, de présenter notre association, de dire un petit peu quel est l'objet et pourquoi nous venons, vient tout de suite dissiper la crainte. Et soit nous sommes reçus très bien, ah oui, vous êtes des chrétiens, ça vient tout de suite enlever le doute, ou alors tout de suite ça vient évoquer du rejet. Dans le cas où les personnes nous accueillent très bien, ce sont souvent des personnes qui nous disent elles-mêmes être chrétiennes. Nous, ça nous permet d'engager la conversation. Dans quelle église tu vas ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être chrétienne ? Est-ce que tu connais Jésus ? Alors cette question, elle marche forcément, parce que qu'on soit chrétien ou pas, ben, on connaît tous Jésus, on a tous un avis très tranché sur qui est Jésus. Pour celles pour lesquelles ça vient susciter du rejet, soit les personnes ont été déçues par des chrétiens, ou des personnes qui ont honte, ont vraiment une très grosse culpabilité par rapport à ce qu'elles font, et qui sont au courant que l'activité qu'elles sont en train de pratiquer n'est pas en conformité avec la parole. Donc tout de suite nous disent non. Je ne veux pas en parler.
C'est une peur du jugement, finalement.
Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que nous, dans notre approche, ce qu'on vient leur dire, c'est qu'on n'est surtout pas là pour les juger. Parfois, c'est un peu ce qu'elles viennent reprocher aux chrétiens. Dire, ben oui, il y a d'autres chrétiens qui sont passés. On dit, c'est mal ce que tu fais. Nous, on n'arrive pas du tout dans cette approche-là. On arrive vraiment avec l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, ça veut dire à un moment, ben, je ne sais pas ce qui t'a conduit à en arriver là, mais sache qu'il y a une possibilité d'en sortir et sache surtout que ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Là, oui, ça passe. Et là, on arrive vraiment à entrer des fois dans des conversations très intimes sur le pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elles n'ont pas eu le choix, quels sont les besoins actuels qu'elles ont, une famille à nourrir, des enfants, etc., qui attendent. Et elles se disent, voilà, je n'ai pas eu d'autre choix, mais si demain, je pouvais arrêter, j'arrêterais. Aucune d'elles ne nous disent qu'elles sont très heureuses de faire ça, que c'est super. Aujourd'hui, c'est ce qui est véhiculé aussi dans notre société. Hein. On sait que ce sont des personnes prostituées qui sont mises en avant dans les médias. On a beaucoup la télé-réalité qui joue aussi sur le corps de la femme qui peut, en fait, s'il a les formes qu'il faut et s'il attire, peut tout avoir. Forcément, dans tout avant, on entend l'argent, le succès. Pour nous, en tout cas, ça va totalement à l'encontre de ce qu'elles nous disent sur le terrain. Ce n'est pas nous qui inventons ou qui voulons que ça colle à la parole. Non, c'est vraiment elles ce qu'elles nous disent. Et aucune ne nous dit qu'elle est fière de ce qu'elle fait. Aucune ne nous dit qu'elle aime. Aucune ne nous dit qu'elle se sent en sécurité, qu'elle s'épanouit dans cette activité, contrairement à ce que les médias actuels peuvent véhiculer aujourd'hui.
L'Alliance de l'Espérance, le principe c'est d'évangéliser, mais vous le disiez tout à l'heure Amandine, vous êtes forcément aussi des oreilles pour recevoir les témoignages. Quels sont aujourd'hui les besoins récurrents de ces femmes ? Finalement, quand vous les abordez, qu'est-ce qu'elles vous disent ? De quoi elles vous parlent ?
Alors aujourd'hui, les femmes que l'on rencontre nous parlent souvent, même en majorité, de leur parcours de migration sur Lyon et même en dehors de Lyon. Donc comme je vous ai dit, voilà, nous intervenons sur Saint-Étienne et un petit peu sur le péage de Roussillon. La plupart de ces femmes sont étrangères. On rencontre très peu de Françaises. Moi, quand j'ai commencé à l'Alliance de l'Espérance, il y a eu beaucoup de femmes de l'Est. Et depuis à peu près 3-4 ans, ce sont vraiment les femmes d'origine étrangère et notamment du Nigeria qui nous racontent voilà, ce parcours de migration. Il y a quelques années, je crois que ça fait 2 ou 3 ans, il y avait une affaire qui avait été révélée, je crois que c'était par CNN, sur l'esclavage des Africains d'Afrique subsaharienne qui traversent la Libye. Toutes sont passées par la Libye. Les hommes noirs étaient mis en esclavage. Pour les femmes noires, c'est l'esclavage sexuel. Cet endroit qui vient les briser, c'est ce qu'elles nous disent, c'est-à-dire que même si elles se sont engagées dans un parcours de migration, sachant très bien que le chemin est difficile, qu'il faut passer par des pays, etc., à partir de là, qu'elles meurent, qu'elles vivent, pour elles, l'espoir s'est arrêté là, en Libye, avant la traversée de la Méditerranée, l'arrivée sur l'île de Lampedusa. Donc c'est vrai que lorsqu'on écoute les infos, bien sûr, ça attriste, etc., mais en fait, il faut savoir que dans nos rues, les personnes sont juste là. Hein. Elles nous racontent comment la traversée a été difficile, comment le bateau, des fois, a chaviré. Enfin, tout ça, c'est concret. Et en fait, elles sont juste dans nos rues, à Lyon, à Saint-Étienne. Enfin. Et ensuite, ce qu'elles abordent concrètement, c'est leurs besoins, notamment au niveau administratif. La majorité sont des personnes en situation irrégulière. Et bien sûr, le besoin d'argent, puisque c'est le principal motif qui a conduit à s'exiler et à venir en Europe, peu importe les conséquences et les risques, et bien sûr la volonté d'arrêter. Face à ces besoins-là, nous, on ne vient pas en arrivant en disant bah, « Très bien, on va te trouver les papiers, le foyer, l'argent. » Nous, on arrive vraiment, comme l'a dit Michael, en toute simplicité. On n'a ni l'argent, on n'a ni le foyer, on n'a pas de connexion avec le préfet pour avoir des papiers. Mais par contre, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment l'amour et le soutien. On joue vraiment la carte de l'honnêteté avec elles, puisque ce sont des personnes qui ont été trompées à plusieurs reprises. On leur a fait miroiter un avenir merveilleux en Europe, le succès, etc. Donc nous, on ne cherche surtout pas à entrer dans une relation qui pourrait laisser sous-entendre qu'il y ait de la fausseté. On arrive en toute vérité avec elles. On leur dit juste voilà, que nous, on sait que le Dieu que l'on prie peut tout faire. On a vu des personnes pour lesquelles il n'y avait a priori aucun espoir de régularisation et les personnes ont obtenu leur papier, un foyer, un appartement. Nous, on vient juste avec ça. Après, voilà, il y en a qui nous disent « Bon, ben, en fait, vous ne servez à rien, donc ce n'est pas la peine. » Mais la plupart voient une lueur d'espoir et elles s'accrochent vraiment à ça.
Quand on a commencé ce ministère, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à ces femmes ?» La problématique, elle est tellement complexe. On n'a pas des réponses, on n'a pas des moyens. À un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on pourrait vraiment aider ces personnes? Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que notre présence et le désir de les aider, ne sachant pas comment le Seigneur allait en fait intervenir, c'était quand même bienfaisant et pour l'équipe et pour ces personnes, parce qu'ils ont constaté ce désir ardent d'être présent, bien qu'on n'ait pas toutes les réponses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure en fait, de cette démarche de foi, Dieu a étoffé l'équipe, les compétences et les possibilités d'aider, même financièrement parlant, même avec des logements ponctuels, mais quand même, il y avait des choses qui se sont dégagées à partir de cette démarche de foi. Et c'est ce à quoi on s'est dit, on est appelé à cela, donc on va marcher dans la foi et on va voir quelle serait la façon dont Dieu va agir. En fait, je me suis dit à plusieurs reprises, ça peut vraiment disparaître rapidement cette association, si Dieu n'est pas au milieu d'eux, si la foi n'est pas la démarche qui caractérise tout ce qu'on fait. On voit justement un Dieu agissant à partir de la foi des personnes qui sont faibles, qui n'ont pas des réponses, mais Dieu agit. Et ça me donne envie, même s'il y a des découragements, ça donne envie d'aller de l'avant et de vraiment lui faire confiance pour cette personne précise dont notre présence est importante dans sa vie et dans sa démarche de découverte de la foi en Christ.
Il y a beaucoup d'étrangères
qui se prostituent. Pourquoi est-ce que cette prostitution nigériane, elle est si spécifique ?
La prostitution nigériane est très particulière puisqu'en fait, elle se base, avant que les jeunes femmes arrivent en Europe, sur une cérémonie occulte qui s'appelle le juju, où la jeune femme vient prêter un serment en s'engageant à ne pas révéler qui sont les personnes qui l'emmènent en Europe pour se prostituer, à ne jamais aller voir la police, à rester toujours dans le réseau et elle contracte lors de ce serment-là une dette de 30 000 à 50 000 euros qui l'engage en fait spirituellement. Contrairement à des réseaux comme les réseaux de l'Est qui sont des réseaux mafieux, on vient vraiment parler de violence, de trafic d'armes et de drogue, etc. Les femmes nigérianes ne sont tenues que par l'emprise spirituelle. Et quand je dis que par l'emprise spirituelle, je viens minimiser parce qu'on voit vraiment que cette emprise est énorme. Elles ont très peur de quitter le réseau parce qu'elles sont au courant qu'on peut les atteindre peu importe où elles vont. Il n'y a pas vraiment de surveillance comme ça peut être le cas pour les femmes de l'Est où on voit des voitures, des berlines qui les surveillent lors des temps de prostitution. Parce qu'on leur dit de toute façon, si tu cherches à t'enfuir, nous on te tient par cette cérémonie occulte où on a pris du sang, des cheveux, etc. On peut t'atteindre n'importe où tu es. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut venir briser. Et c'est pour ça que lorsque l'on va dans ces rues et que l'on parle de Jésus et de la puissance du sang de Jésus pour briser toutes ces alliances, là, elles sont attentives de dire « Ah bon, mais est-ce que c'est vrai ? Comment ça se passe ?» Et c'est vrai que là, il y a un vrai enjeu pour les chrétiens parce que ces femmes ont vraiment besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce qu'elles ont été flouées dans tous les mensonges de l'ennemi.
Comment est-ce qu'on aborde ces femmes quand on est un homme ? Elles ont un regard sur ces hommes qui sont leurs clients, généralement. Mmh. Comment est-ce qu'en tant qu'homme, en tant que chrétien, quand on agit dans cette association, on arrive à prendre la distance peut-être nécessaire pour les aborder ?
Au départ, j'étais très sensible à cela et je ne me voyais pas en fait m'adressant directement aux femmes dans la rue. On avait quand même un protocole quand on a commencé le ministère et puis maintenant avec l'expérience, on voit qu'il y a différentes modalités quant à cette approche. Mais au départ, moi j'étais là présent, il y avait toujours trois personnes, deux femmes et un homme. J'étais plutôt en retrait, présent. Quand on s'est présenté les trois personnes qui étaient là, mais c'était plutôt les femmes qui venaient auprès des filles pour leur parler et que voilà, ce monsieur, il est avec nous. Ce qui s'est avéré au fur et à mesure, c'était qu'il y avait un certain besoin de quelqu'un qui parlait l'anglais. Parce qu'avec les Nigériennes, bon, ils ont leur patois, si on peut le dire comme ça, mais aussi, elles parlent la plupart l'anglais. Ça vient de la culture nigérienne que je connais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais quand même, il y a un respect pour les pasteurs et un respect pour recevoir, une ouverture pour recevoir la prière. Et donc, je me suis trouvé devant ces femmes. Après la présentation de mes camarades, j'avais l'occasion de leur parler, de les écouter et d'apporter une prière, un conseil, un encouragement. Je les regardais toujours dans les yeux. Parce que c'était la manière de comprendre la profondeur de la personne créée dans l'image de Dieu. Et donc ça donne une compassion. Il faut quand même s'apprêter à avoir ce regard-là, parce qu'on est homme, on est face à des choses parfois qui nous dépassent. Donc se concentrer sur la personne, son histoire, et la tragédie de ce qui arrive à ces femmes-là.
C'est jamais non plus simple déjà d'évangéliser, puis évangéliser à des personnes à moitié nues. Qu'est-ce qui change peut-être ? Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qu'on aborde différemment ?
Ce qui est différent déjà, c'est le regard. Lorsqu'elles voient que l'on arrive avec un regard d'amour, de bienveillance, on a pu voir des femmes qui, même un peu gênées, nous parlaient, mais essayaient un peu de se couvrir, alors qu'on n'avait pas du tout à aborder, en disant « recouvre-toi s'il te plaît ». Et en fait, elles ont vraiment ce respect. Peu importe qu'elles soient chrétiennes ou pas, à partir du moment où on arrive et qu'on se présente, il y en a même qui refusent la prière sur le trottoir, qui nous disent « Non, ce lieu est impur ». Il y a vraiment un respect lorsque on les invite dans nos églises. Ce ne sont pas du tout des femmes qui arrivent habillées, si je puis dire entre guillemets, en prostituées. Elles arrivent habillées très correctement et elles sont très respectueuses. Donc il y a vraiment cette chose en elles, voilà, ce respect en tout cas, dès qu'on vient de parler voilà, de Jésus, elles sont respectueuses. J'ai pu faire des sorties avec Michael où c'est très très important d'avoir des hommes à nos côtés puisque rien que ça, pour elles, c'est presque un petit miracle en fait. Là, dans cette atmosphère où les clients défilent dans la rue les uns après les autres, un homme qui vient et qui la regarde avec bienveillance, rien que ça, ça a déjà un impact. Beaucoup plus que nous, les sœurs qui arrivons et qui, en tant que femmes, sommes touchées, même dans notre chair, en fait, de cette situation, de dire, mais en tant que femme, comment on peut en arriver là ? La présence d'un homme, ça a un gros impact, vraiment, sur la manière de les aborder, sur la manière dont elles-mêmes vont pouvoir se positionner, de dire, en fait, tous les hommes ne sont pas des clients. Et c'est bien ce qu'on essaye aussi, lorsque l'on les accompagne, de pouvoir aussi restaurer l'image des hommes. Comment faire confiance à un homme après tout ce que j'ai vécu, et comment un homme pourrait m'aimer pour autre chose que pour mon corps et juste pour ma personnalité. Donc tout ça, c'est des accompagnements que l'on fait aussi pour dire, ben, comme toute femme, tu as le droit aussi d'être aimée pour ce que tu es, pas pour ton corps, pas parce qu'il y a derrière une volonté d'obtenir une faveur sexuelle, mais juste pour ce que tu es. Et du coup, la présence d'un homme, ça vient aussi à remonter, même Jésus, c'est un homme, et regarde comment il t'aime, regarde comment il t'accueille bienveillance, et ça compte vraiment beaucoup vraiment dans l'approche.
On parle essentiellement des femmes. Est-ce que vous croisez des hommes prostitués ? Comment ça se passe avec eux ? Est-ce que l'approche est complètement la même, ou est-ce qu'il y a quand même un petit quelque chose de différent ?
Alors oui, nous croisons des hommes, alors ce sont souvent des Français, travestis, pour la plupart du temps, des hispanophones aussi travestis. Ce qui était compliqué, c'était de savoir, mais en fait, il nous dit qu'il s'appelle avec un prénom féminin. Quand on va parler, qu'est-ce qu'on dit ? Lui, elle, déjà rien que ça. Et c'est pour ça que c'est important d'être formé, puisque la personne en face de nous se présente en tant que telle. Et à partir du moment où on va l'appeler par un nom masculin, ça veut dire déjà qu'on est dans le jugement, qu'on ne l'accepte pas telle qu'elle est. Et en même temps, c'est contre nos valeurs chrétiennes. Alors voilà, il y a eu plein de questions par rapport à ça. Les hommes que nous rencontrons, souvent, ce sont des personnes qui travaillent. La question financière, comme elle peut l'être pour les femmes étrangères sans papier, bon, on est déjà dans quelque chose de totalement différent. Des personnes qui ont droit à des aides. Je me rappelle qu'on a pu aussi croiser des personnes qui ont des familles, une femme, des enfants, et qui viennent faire ça la nuit. Pour les Français, c'est compliqué pour eux d'entendre quand on vient en disant Jésus, etc. Pour le coup, là, le cœur est peut-être beaucoup plus fermé, moins ouvert à se dire il y a un espoir que je puisse m'en sortir, puisque là, on n'est plus du tout dans des conditions de survie comme peuvent l'être les femmes étrangères. Là, c'est une personne qui nous dit, mais j'ai fait le choix de venir me prostituer ici. J'y trouve un plaisir particulier, je m'épanouis. Voilà, donc là, le discours ne peut pas du tout être le même qu'avec les femmes étrangères. Et à chaque fois, alors que là, que ce soit les Français, les personnes hispanophones, on rencontre aussi des Maghrébins qui ont quitté le Maghreb lorsque leur homosexualité a été découverte. Ils sont arrivés en France en disant « moi, je peux vivre mon homosexualité librement, en prostitution, etc. » À chaque fois, quand on creuse un petit peu l'histoire de la personne, qu'à un moment, il y a eu un abus sexuel dans l'enfance, il y a eu de l'inceste, il y a quand même une origine. Encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans le jugement. Ce sont des personnes que l'on invite aussi. Elles veulent nous rencontrer en journée, si elles ont des besoins particuliers sur lesquels nous pourrions les accompagner. Et on a la même bienveillance envers eux que l'on peut l'avoir auprès des femmes. Cependant, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir les accrocher sur l'accompagnement. En tout cas, moi, je suis membre depuis 2013. Nous n'avons encore jamais accompagné une personne qui nous dit « j'aurais peut-être un besoin, j'ai envie d'en savoir plus, etc. » Et souvent, dans les travestis étrangers, donc hispanophones particulièrement, ce sont aussi des personnes qui se disent chrétiennes et très très croyantes. Voilà, dans mon sac, j'ai ma Bible, je fais la montée à Fourvière le 15 août, etc. Non, non, mais moi je sais que Dieu ne me juge pas. C'est vrai qu'on y va avec des pincettes, et c'est pour ça que pour les membres de l'Alliance, c'est très important d'avoir un temps de formation. Pour ceux qui sont plus expérimentés, on sait tout de suite que là, il va falloir être vigilant, pas dire ci, pas dire ça. Et c'est vrai que des nouvelles personnes qui arrivent, ça peut être très blessant. Je me rappelle, voilà, un nouveau membre qui est arrivé en disant à une personne, bah, tu sais, tu es victime de la prostitution. Non, la personne, je ne suis pas une victime. Et là, c'était fermé. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître le fonctionnement des différents réseaux, des différents profils. Et c'est ce qui a pu être acquis tout au long de ces années d'expérience.
Avec la pénalisation des clients depuis 2016, est-ce que vous, qui êtes dans la rue, vous avez vu la situation évoluer ?
Lorsque cette loi est passée, on s'est dit « Ah bah super, on ne va plus voir personne dans les rues, etc. » Il y a dû avoir peut-être le premier mois un peu moins de monde. Et après, ça a recommencé. Et c'est vrai que nous, dans les rues de Lyon particulièrement, on a pu faire des sorties, on a vu la police qui circule. On s'est dit, ah bah là, tel client qu'on vient de voir monter. Non, on a vu que voilà, la police demandait à la personne de sortir. Et ça s'arrêtait là. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup interrogé les filles en disant, mais vous avez entendu parler de cette loi? Est-ce que vous savez qu'en France, maintenant, un client peut être pénalisé, etc. C'était les premières à nous dire, non, mais on n'y croit pas. Mais si, vous allez voir. Et c'est vrai que concrètement, dans les faits, on a très peu vu d'interpellations. On voit les clients qui défilent, donc on ne sent pas une vraie crainte des clients par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a aussi des associations qui se sont levées un petit peu pour faire un état des lieux de cette loi et dire que les personnes prostituées sont plus en insécurité parce qu'elles vont aller se cacher pour se prostituer par rapport à cette loi. Nous, sur les trottoirs de Lyon, les prostituées sont toujours aussi présentes. Elles ne se cachent pas. L'insécurité est toujours la même qu'avant. Malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, nous, cette loi, au niveau des clients, on a peu de retours là-dessus. Cette loi aussi vient instituer un parcours de sortie de la prostitution qui permet aux personnes étrangères d'avoir un titre de séjour, d'avoir une petite aide financière. L'application de cette loi est aussi soumise au préfet. Sur Lyon, pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour. Après, c'est une loi qui est très jeune. 2016, c'est une loi qui demande quand même énormément d'investissement. C'est énorme. Donc, du coup, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de recul pour pouvoir en voir les effets.
Pour vous contacter, comment on fait ?
Il faut simplement nous envoyer un petit mail à l'adresse suivante alliance.delespérance@gmail.com. Il n'y a aucun problème, on vous répondra avec joie.
Vous pouvez bien sûr nous contacter et nous, on transmettra à l'Alliance de l'Espérance. Merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous faites. Bon courage, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.